Bonjour à tous, je suis Patrick Sauce, éditorialiste international à BFM TV. C'est un bien étrange pays que visite en ce moment Vladimir Poutine. La Mongolie, ça a été Gengis Khan, le centre de l'empire mongol le plus grand de l'histoire. C'est aujourd'hui une démocratie coincée entre deux États autoritaires et expansionnistes, la Chine et la Russie. Mais c'est aussi un membre de la Cour pénale internationale qui a lancé un mandat d'arrêt contre le président russe. Alors, Poutine, bientôt derrière les barreaux à Oulan-Bator, bienvenue dans l'œil de Moscou. Et comme chaque semaine, nous retrouvons le correspondant de BFM TV à Moscou, Paul Gogo. Salut Paul.
Salut Patrick.
Et merci de me retrouver après cet été que j'espérais reposant pour toi. On va parler voyage. Que va faire Vladimir Poutine à Oulan-Bator? J'enlève tout de suite le suspense. Il n'a pas été arrêté. C'était pour le bon mot. Il y avait un côté OSS 117, mais non, il était accueilli par un tapis rouge et grande visite d'apparat.
Exactement, une vraie visite d'État, hein, avec tout le protocole qui va avec, toute la mise en scène qui va avec. Donc, bon, t'as le besoin de... tu sais, Poutine, il passe son temps au quotidien, hein, depuis le début de la guerre, à compter ses amis, qui sont en fait très nombreux. Il en reçoit tous les jours, il en voit tous les jours, il en appelle tous les jours. Alors, ce ne sont pas nos démocraties, ce n'est pas l'Occident. Mais en tout cas, il compte les troupes, en fait. Il compte ceux qui le soutiennent encore. Et donc, la Mongolie, alors il y a la raison officielle, et puis il y a cette raison-là. C'est-à-dire qu'il va s'assurer, étudier le soutien qu'on lui apporte encore dans ces régions-là. C'est un pays qui n'a pas été... très clair et en même temps plutôt côté russe lorsqu'il s'agissait de le soutenir dans la guerre en Ukraine, qui s'y est pas opposé comme d'autres pays d'Asie centrale ont eux pu le faire. Donc c'est voilà l'objectif du Kremlin, c'est de montrer qu'on est encore capable de réaliser ce genre de visite. Et donc concrètement le pourquoi de cette visite, parce que on en a parlé, mais effectivement ça a l'air d'être sorti un peu de nulle part, et on sait que le Kremlin est capable de trouver des commémorations que tout le monde avait un petit peu oubliées pour voilà, donner une raison à ces visites. Et donc l'idée, c'est de venir célébrer la victoire soviétique, 85e pardon, anniversaire de la victoire soviétique d'une bataille qui a eu lieu en 1939 en Mongolie. Et en fait, ça ramène à tout ce que Vladimir Poutine fait en ce moment, qui doit toujours être lié d'une façon ou d'une autre à la guerre en Ukraine. C'est un détail. Mais Vladimir Poutine ne rate aucune occasion de rappeler ce qu'a été l'URSS, ce qu'a été la Russie et ce qu'elle est aujourd'hui, et les batailles qu'elle a menées et qu'elle est amenée à mener, et avec qui. Et donc d'où l'importance d'appuyer ses soutiens et de refaire le tour de ses éventuels soutiens.
Avant de partir vraiment sur ce que veut Vladimir Poutine, on va s'arrêter deux secondes quand même sur cette Mongolie. Je l'ai dit en introduction, c'est effectivement l'Empire mongol, 23 millions de kilomètres carrés. C'est le plus grand empire de l'histoire, 13e siècle. Je le dis aussi parce que tu l'as déjà dit plusieurs fois la saison dernière, Vladimir Poutine, il aime bien jouer avec l'histoire, il aime bien jouer avec les cartes. Et je me souviens d'un tweet extraordinaire d'un ancien président. Il avait été battu démocratiquement, il faut le dire, en 2017 en Mongolie, l'ancien président mongol, qui avait ressorti les cartes aussi, oui. Qui avait dit « oui, oui, alors, calmos avec les volontés expansionnistes, nous, on est quand même le pays de Gengis Khan, on est un pays amical, démocratique, mais on sait faire aussi avec cette carte de la Russie au XIIIe siècle, totalement entourée par l'Empire mongol. » C'était drôle.
Oui, et c'est vrai. Et d'ailleurs, ces cartes ressortent sur Internet depuis 48 heures. On voit, donc c'est des mèmes, hein, en gros, des blagues qui rappellent des citations de Vladimir Poutine, qui aime bien dire que la Russie n'a pas de frontières et que la Russie n'a pas de limites, et qu'en gros, il montre les Mongols en train de prendre la chose au mot en disant bah, « Attention, parce qu'à ce jeu-là, vous pouvez y perdre, vous les Russes. » Effectivement, la Russie, c'est un point autour d'un empire mongol gigantesque. Donc, c'est sûr qu'il y a des discours impérialistes qui doivent être adaptés d'un pays à l'autre et qu'on tient peut-être moins facilement en Mongolie qu'ailleurs.
Alors, on l'a dit, c'est une démocratie. Ils ont le sens de l'humour. Mais on ne va pas rentrer totalement dans le cliché. Il y a quasiment 4000 km de frontières. Je l'ai dit, c'est vraiment entre le marteau et l'enclume. Ils doivent choisir. Ils ont la Chine en bas, la Russie en haut. Et c'est un membre de la Cour pénale internationale. On le rappelle, il y a un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour déportation illégale d'enfants depuis l'Ukraine vers la Russie. Ils avaient l'obligation d'arrêter Vladimir Poutine. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ?
Alors, de ce que j'ai appris, c'est une obligation relative. C'est-à-dire que le maximum qu'on puisse leur faire, c'est de toute façon de leur taper sur les doigts. Mais effectivement, c'est une situation très inconfortable. On était nombreux à penser que Vladimir Poutine annulerait son voyage parce que c'est ce qu'il avait fait il y a, je crois, un an, en tout cas au lendemain où est apparu ce mandat d'arrêt. Il devait se rendre en Afrique du Sud et il avait annulé le déplacement parce que l'Afrique du Sud était embêtée. Et je pense que l'Afrique du Sud lui avait fait passer le message, on est embêté, on sait pas, voilà, on vous recevrait bien, mais là, ça va être compliqué. Visiblement, avec la Mongolie, il y a eu moins de problèmes. Alors, je serais assez curieux de voir comment les choses se sont discutées en coulisses, si des gens du Kremlin ont littéralement demandé est-ce que vous allez nous arrêter si on vient? Mais je pense qu'ils connaissent bien quand même ce pays et qu'ils se doutaient bien que ce n'était pas possible, quoi. Et comme tu viens de le rappeler, ils sont entre la Chine et la Russie. Et il y a des prises de position qu'on ne peut pas forcément se permettre de prendre quand on est entre ces deux pays-là.
Qu'a-t-il à gagner à et vraiment s'imposer finalement en Mongolie en arrivant à Ulan Bator? Parce que forcément, si c'est Vladimir Poutine, à partir du moment où les autorités acceptent qu'il vienne, il faut envoyer le tapis rouge.
Oui. Et je regardais les images avant de te retrouver. C'est vraiment flagrant à quel point. Alors, j'imagine que les visites d'État en Mongolie se passent toujours de la même façon, mais on manque peut-être d'images au quotidien des visites d'État qui ont lieu dans ce pays. Mais
Emmanuel Macron était venu en visite en
oui.
Mongolie, c'était tout sauf un hasard également, hein.
Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est très, très éveillé. Il y a de très belles images des soldats, du tapis rouge. Et c'est un vrai accueil. Et les télévisions d'État russes, en fait, parviennent à utiliser ces images-là. C'est des images, en fait, on ne se rend peut-être pas compte, mais depuis 2022, on a besoin dans les télévisions d'État de ce genre d'images, de Vladimir Poutine accueilli en chef d'État. Déjà, c'est pas rien. En grande star, respectée. Donc c'est des images qui sont finalement précieuses pour les médias d'État parce que ça rappelle que contrairement à ce que disent tous les grincheux en Russie et ailleurs, eh bien Vladimir Poutine n'est pas tout seul. Il est effectivement tout seul quand on parle d'Occident, mais il y a tout un reste du monde, pour qualifier ça comme ça, qui lui adresse encore la parole. Alors c'est une somme de positions différentes et mesurées sur l'Ukraine et sur la Russie. Mais en attendant, il y a toute une partie du monde qui lui adresse encore la parole. Et donc, on travaille à ça au ministère des Affaires étrangères russe au quotidien, à essayer de déclencher des voyages, à essayer de montrer au passage que Vladimir Poutine, celui qui restait dans sa cave toute la journée, sort maintenant, qu'il aille chez les Russes ou à l'étranger. Et donc, c'est vraiment l'idée de montrer qu'il a encore des amis, qu'il a encore des amis dans la région aussi. Ce qu'on appelait l'étranger proche il y a encore quelques temps et qui a de moins en moins de valeur et de poids, parce qu'on a vu des anciens pays soviétiques se retourner gentiment, discrètement, un peu contre le Kremlin ces derniers temps.
Tu penses au Kazakhstan,
Oui, no
notamment?
notamment, hein, mais quasiment tous en fait. Je dis ça avec modération, personne n'a expliqué au Kremlin qu'il allait lui tourner le dos et qu'il en avait marre de Vladimir Poutine. Mais il y a eu des positions, on les calcule notamment par les points de vue qu'il y a sur l'Ukraine, et des positions sur l'Ukraine qui montraient qu'il y a une fatigue de l'étranger proche. D'avoir ce statut d'étranger proche, justement. Et je préciserai quand même, alors c'est peut-être anecdotique, mais en Mongolie, il y a quand même eu des mini-manifestations hier. Il y a quand même des gens qui sont venus demander à Vladimir Poutine de rentrer chez lui et qui ont pris le courage, le risque, qui ont eu le courage de manifester. Ce qui, encore une fois, quand on vit entre la Russie et la Chine, aussi démocratique soit la Mongolie, je pense, ne doit pas être si évident que ça.
C'est un signal adressé à l'Occident. J'en profite justement. Est-ce que c'est un signal aussi adressé à la Chine ou pas?
Alors, il y a évidemment Vladimir Poutine, je pense qu'il prend toujours beaucoup plus que ce qu'on croit en compte les particularités locales. Et puis, lui, il est vraiment en train de travailler sa relation avec la Chine. On sait très bien, et ça fait l'objet de beaucoup de blagues en Russie, que la Chine n'a pas forcément la même volonté de s'investir dans la relation avec la Russie que la Russie avec la Chine. Et c'est quand même un voisin qui fait peur aux Russes, finalement, la Chine. Donc il y a des relations qu'on prend soin à travailler et qui vont parler peut-être à un certain public en Russie. C'est un objectif avant tout, je pense, quand même national. Après, on sait goûter son plaisir au Kremlin quand il s'agit de. C'est un peu une sorte de provocation, hein, de la part de Vladimir Poutine, de se montrer de la sorte, de montrer qu'en fait, puisqu'on est dans une période où on parle beaucoup de lignes rouges où l'Ukraine parvient à franchir des lignes rouges russes et des lignes rouges occidentales, et la Russie aussi est capable de franchir des lignes rouges, et que finalement les lignes rouges ont peu de valeur de nos jours. Enfin, je pense que c'est un peu le message envoyé par le Kremlin aux Occidentaux aujourd'hui, c'est venez me chercher, mais visiblement vous n'êtes pas capable de venir me chercher. Avec à côté l'Ukraine qui crie, bien sûr, qui demande à ce que quelque chose se passe, mais évidemment on comprend bien que c'est pas, enfin que c'est pas possible. Et c'est d'ailleurs le fait d'ailleurs que ce soit même pas envisagé, je pense, par les autorités mongoles, c'est aussi le, comment dire, le pourquoi de ce mandat d'arrêt. C'est pas Vladimir Poutine et la guerre en Ukraine le mandat d'arrêt, c'est vraiment très spécifique sur ces enfants du Donbass qui ont été déportés en Ukraine. Et je me demande dans quelle mesure c'est pas un sujet qui pousse aussi les gens à se dire, bon, c'est un sujet annexe à la guerre, mais c'est pas la guerre en tant que telle qui est remise en cause. Et donc arrêter, enfin prendre même juste position en disant, je sais pas, la Mongolie aurait pu dire, on accueille Vladimir Poutine, on était en conscience de ça, mais voilà, on est contre la guerre en Ukraine. Là, c'est même pas la question, à mon avis, dans l'état d'esprit de beaucoup de gens. Voilà, c'est pas une question de qu'est-ce qu'on pense de la guerre en Ukraine. C'est vraiment une question de, on accueille Vladimir Poutine et les récriminations occidentales, voilà, on s'en passe.
Qu'est-ce qu'il pousse comme problème, ce mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale ? C'est juste un petit sparadrap, c'est vraiment rien du tout, mis à part les trois communiqués du Kremlin très rapidement après ce mandat d'arrêt, ou c'est vraiment une source d'embêtement ?
Non, moi j'ai cru ressentir en Russie une vraie préoccupation sur cette question-là. On a l'habitude de dire, et même la sensation souvent, que Vladimir Poutine n'a plus rien à faire de son image, de l'image que lui ou la Russie renvoie à l'étranger. À mon avis, sur cette question-là, ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qui l'a vraiment touché, parce que dans l'esprit de tout le monde, c'est on acte le fait que c'est un criminel de guerre, qu'il fait des choses de criminel, qu'il agit, pardon, comme un criminel. Et ça, pour le coup, ça parle à tout le monde, même à la population russe. C'est des institutions, on connaît très bien les institutions internationales en Russie. Et ça, c'est un sujet sensible. Moi, j'ai eu l'expérience il y a 2 mois, je crois, quand j'ai été amené à rencontrer la co-recherchée de Vladimir Poutine, Maria Lvova-Bielova. Qui est donc cette femme qui est chargée des droits des enfants en Russie et qui est aussi accusée avec Vladimir Poutine d'avoir déporté ses enfants. Et j'ai jamais vu une communication pareille en Russie. On avait des dossiers de presse en anglais, en français, en russe. Moi, j'avais été invité par le ministère des Affaires étrangères qui avait dépêché tout le monde m'attendait dans l'entrée du ministère parce que j'étais quasiment le seul, je crois, à avoir accepté l'invitation. Donc on surveillait bien, on s'inquiétait des questions que j'allais poser. Elle-même avait préparé un message qui était quasiment uniquement destiné à l'Occident, en disant c'est un malentendu, moi je travaille avec les Turcs, avec la Croix-Rouge internationale, même avec l'Ukraine, on a des relations, je vous promets qu'on fait notre mieux. Et c'est vrai que dans les faits, il y a quelques enfants régulièrement qui sont rendus à l'Ukraine, et donc on comprend qu'on a touché un point sensible. Et c'est à peu près le seul point sur lequel on voit la Russie tenter de faire des efforts. Alors modérément, hein, il y a quand même des milliers d'enfants qui sont disparus. Mais il y a en tout cas un petit quelque chose qui montre qu'on est très sensible à ce genre de choses.
C'est quoi ? C'est parce qu'on parle d'enfants ? Là, on est dans le cynisme le plus complet. Il y a des enfants qui sont sans doute morts dans les derniers bombardements dans le centre de l'Ukraine. C'est le fait que la CPI, c'est la haie. C'est une cour dont les États-Unis, par exemple, ne sont pas membres. On est vraiment sur un ensemble de pays qui ne sont pas forcément les plus grandes puissances mondiales. C'est quoi ?
Oui, c'est l'ensemble. Alors, c'est très juste ce que tu dis sur les enfants, les familles, les enfants. C'est très sensible en Russie. En ce moment, on est dans une Russie ultra-conservatrice qui est censée tout faire pour protéger ses familles, ses enfants. Alors, comme tu viens de le rappeler, c'est du cynisme le plus total, parce que dans les faits, ça n'empêche personne de bombarder ses familles, ses enfants, quand elles sont dans le pays d'à côté. Mais effectivement, c'est un sujet sensible. Et d'accuser Vladimir Poutine ou cette femme, cette jolie femme blonde qui vit avec plein d'enfants, de pouvoir faire du mal à des enfants, alors là, mais c'est un drame total pour eux, et c'est un drame total pour la Russie. Donc il faut effectivement se protéger de ça. Et ensuite, effectivement, cette institution, la haie, plus dur à discréditer que l'OTAN, on va dire. Et c'est, je pense, de toute façon, dans le principe, toutes ces institutions, elles étaient respectées par la Russie à un moment, et elles le sont toujours. Et donc c'est très sensible, effectivement. Ce sont des limites liées à l'image du président qu'on n'aime pas, sachant qu'en Russie, il faut toujours le rappeler, l'image du président est très très protégée. Lui-même, Vladimir Poutine, je pense, est surtout motivé par l'image et l'histoire qu'il laissera à son pays. Et donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on ne veut pas forcément, enfin, on aimerait bien ne pas avoir dans l'histoire officielle par la suite. Et donc je pense vraiment qu'il y a une politique en ce moment, puisque c'était un peu le sens de la conférence de presse, la rencontre Lvova Bielova à laquelle j'avais assisté. Je crois que le but vraiment, c'est d'essayer de faire sauter ce mandat d'arrêt. Enfin, il y a vraiment une volonté de la part de la Russie, ce qui est compliqué par la situation, parce que tout l'Occident leur fait la tête. Mais c'est vraiment...
Parce qu'il y a des preuves, surtout.
Et parce qu'il y a des preuves, accessoirement. J'étais en train de réfléchir comme la justice russe.
Oui, oui, mais c'est la justice internationale. Mais,
voilà. Et en fait, je pense que c'est un objectif qui est recherché, mais qui est compliqué par le fait qu'il y ait des preuves et par le fait aussi qu'il y a certainement d'autres mandats, en tout cas d'autres plutôt accusations qui leur pendent au nez, pour dire ça comme ça, sur tout ce qui est lié à la guerre en Ukraine. Il y a quand même des crimes de guerre qui sont avérés et qui un jour pourraient potentiellement être transformés, on va dire, dans cette cour pénale internationale et être pris en compte et faire l'objet d'autres accusations. Donc je pense qu'on essaye voilà, de limiter les dégâts, mais la Russie n'a aucun pouvoir sur l'Occident de nos jours parce qu'elle lui tourne le dos.
Mais l'Occident n'a quasiment aucun pouvoir non plus sur la personne de Vladimir Poutine. On l'a vu, c'est la Mongolie, ça aurait pu être un autre pays. Est-ce que, c'est une question un peu naïve, mais est-ce que tu penses qu'il est possible un jour de voir Vladimir Poutine dans un box des accusés, avec la présomption d'innocence, certes, mais se présenter à la justice? Question naïve. Hein.
Beaucoup en rêvent, ça ne t'aura pas échappé. Ça fait l'objet aussi de beaucoup de mèmes, de blagues sur les réseaux sociaux ou des blagues qui n'en sont pas. C'est impossible parce que là, Vladimir Poutine, il est engagé dans un processus à la vie à la mort avec la Russie, en gros. Et l'idée, c'est de mourir avec le système, avec le pouvoir. L'idée, c'est même... Enfin, ça, ce serait dans le pire des cas pour lui, mais c'est surtout de quitter cette terre en ayant laissé une histoire de grand homme à la Staline, on va dire, dans l'histoire de ce pays, et qui rien qui vienne encore plus l'entacher par la suite. Lui, il veut une vérité historique à ce qu'il est en train de faire. C'est ça qu'il construit au quotidien. Se rendre à La Haye, ce serait aller à l'encontre de cette vérité historique, parce que la vérité et les faits qui lui seraient présentés à La Haye seraient opposés à l'histoire qu'il est en train d'essayer d'écrire, sachant que ce mandat d'arrêt, il est quand même lié à une divergence de points de vue, pour dire ça comme ça, qu'on a tous sur la Russie. Pour eux, ce sont des territoires russes, et donc on a déplacé des enfants pour les éloigner de la guerre. Et pour nous, ce sont des enfants ukrainiens qui ont été volés et envoyés chez des inconnus un peu partout en Russie pour en plus les russifier derrière, voire les militariser pour ce qui est des adolescents. Et c'est d'ailleurs plutôt ça la réalité, parce que il y a quand même beaucoup de familles, a priori, qui n'étaient pas conscients d'où partaient leurs enfants et qui cherchent à retrouver leurs enfants. La Russie vit dans un monde parallèle qui est une histoire, en fait, écrite au quotidien par le Kremlin et qui a pour objectif de perdurer après la mort de Vladimir Poutine. Donc tout jugement qui interviendrait à l'international ne viendrait que casser cette histoire qu'on essaie de construire. Cette mafia fera tout pour la qualifier comme ça, fera tout pour échapper à la moindre justice. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit en Russie, la tendance, c'est de sortir de toutes les institutions, les accords internationaux depuis plus de 2 ans, pour ne plus avoir affaire à toutes ces récriminations.
Il n'empêche, elle prend son temps, elle est très longue, mais la justice continue, notamment sur le sol ukrainien, sur des zones de guerre. La documentation de ces crimes de guerre, voire plus, notamment à Boutcha, ça fait longtemps Boutcha, et pourtant on continue d'accumuler les preuves. Et à un moment, tout de même, cette justice passera avec quelqu'un ou pas dans le box des accusés, mais ça reste importantissime, notamment pour les Ukrainiens, mais aussi pour une partie des Russes. Merci beaucoup, Paul, et à la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre podcast sur BFM Radio, bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt.